Chapitre 4. Te souviens-tu, Pépita, de l'officier polonais que nous avons logé chez nous en 1809? Oh, si je m'en souviens, dit-elle, je suis souvent impatienté de ce que ma mémoire me fit si souvent revoir ses deux yeux semblables des langues de feu dans les salières au-dessus de ses sourcils où se voyaient des charbons de l'enfer. Son large crâne sans cheveux, ses moustaches relevées, sa figure anguleuse, dévastée. Oh, enfin, quel calme effrayant dans sa démarche. Oh, s'il avait eu de la place dans les auberges, il n'aurait certainement pas couché ici. Bien, ce gentilhomme polonais se nommait M. Adam de Wierzchownia, reprit Balthazar. Quand le soir, tu nous eus laissés seuls dans le parloir, nous nous sommes mis par hasard à causer chimie. Arraché par la misère à l'étude de cette science, il s'était fait soldat. Et je crois que ce fut à l'occasion d'un verre d'eau sucrée que nous nous reconnûmes pour adeptes. Lorsque j'eus dit à Bulquinier d'apporter du sucre en morceaux, le capitaine fit un geste de surprise. Vous avez étudié la chimie ? Me demanda-t-il. Oui, avec Lavoisier, lui répondis-je. Vous êtes bien heureux d'être libre et riche, s'écria-t-il. Et il sortit de sa poitrine un de ces soupirs d'homme qui révèlent l'enfer de douleur caché sous un crâne ou enfermé dans un cœur. Enfin, ce fut quelque chose d'ardent, de concentré, que la parole n'exprime pas. Il acheva sa pensée par un regard qui me glaça. Et après une pause, il me dit que la Pologne, quasi morte, il s'était réfugié en Suède. Il avait cherché là des consolations dans l'étude de la chimie, pour laquelle il s'était toujours senti une irrésistible vocation. Eh bien, ajouta-t-il, je le vois, vous avez reconnu comme moi que la gomme arabique, le sucre et l'amidon mis en poudre donne une substance absolument semblable, et en analyse un même résultat qualitatif. Il fit encore une pause, et après m'avoir examiné d'un œil scrutateur, il me dit confidentiellement et à voix basse, de solennelles paroles dont aujourd'hui le sang général est seul resté dans ma mémoire, mais il les accompagna d'une puissance de son, de chaudes inflexions et d'une force dans le geste qui me remuèrent les entrailles et frappèrent mon entendement comme un marteau balfaire sur une enclume. Et voici donc, en abrégé, ces raisonnements qui furent pour moi le charbon que Dieu mit sur la langue d'Isaïe, car mes études chez Lavoisier me permettaient d'en sentir toute la portée. « Monsieur, me dit-il, la parité de ces trois substances en apparence si distincte m'a conduit à penser que toutes les productions de nature devaient avoir un même principe. Les travaux de la chimie moderne ont prouvé la vérité de cette loi, pour la partie la plus considérable des effets naturels. La chimie divise la création en deux portions distinctes, la nature organique, la nature inorganique. Et en comprenant toutes les créations végétales ou animales dans lesquelles se montre une organisation plus ou moins perfectionnée, ou pour être plus exact, une plus ou moins grande motibilité qui détermine plus ou moins de sentiments, la nature organique est certes la partie la plus importante de notre monde. Or, l'analyse a réduit tous les produits de cette nature à quatre corps simples, qui sont trois gaz, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, et un autre corps simple, non métallique, c'est solide, le carbone. Au contraire, la nature inorganique, si peu variée, dénuée de mouvements, de sentiments, et à laquelle on peut refuser le nom de croissance qui lui a légèrement accordé l'inné, compte 53 corps simples dont les différentes combinaisons forment tous ces produits. Alors est-il probable que les moyens soient plus nombreux là où il existe moins de résultats? Aussi l'opinion de mon ancien maître est telle que ces 153 corps ont un principe commun, modifiée jadis par l'action d'une puissance éteinte aujourd'hui, mais que le génie humain doit faire revivre. Eh bien, supposez un moment que l'activité de cette puissance soit réveillée, nous aurions une chimie unitaire. Les natures organiques et inorganiques reposeraient vraisemblablement sur quatre principes, et si nous parvenions à décomposer l'azote, que nous devons considérer comme une négation, nous n'en aurions plus que trois. Et nous voici déjà près du grand ternaire des anciens, des alchimistes du Moyen-Âge dont nous nous moquons à tort. La chimie moderne n'est que ça encore. C'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup, car la chimie s'est habituée à ne reculer devant aucune difficulté. Et c'est peu, en comparaison de ce qui reste à faire. Oh, le hasard l'a bien servi, cette belle science. Ainsi, cette lame de carbone pure, cristallisée, le diamant, ne paraissait-il pas la dernière substance qu'il fut possible de créer ? Les anciens alchimistes qui croyaient l'or décomposable, conséquemment faisable, reculait à l'idée de produire le diamant. Et nous avons vu cependant découvert la nature et la loi de sa composition. « Bien moi, dit-il, je suis allé plus loin. Une expérience m'a démontré que le mystérieux ternaire dont on s'occupe depuis un temps immémorial ne se trouvera point dans les analyses actuelles qui manquent de direction vers un point fixe. Voici d'abord l'expérience. Semer des graines de cresson pour prendre une substance entre toutes celles de la nature organique dans de la fleur de soufre pour prendre également un corps simple. Arroser les graines avec de l'eau distillée pour ne laisser pénétrer dans les produits de la germination aucun principe qui ne soit certain. Bien les graines germent, poussent dans un milieu connu en ne se nourrissant que de principes connus par l'analyse. Coupez à plusieurs reprises la tige des plantes afin de vous en procurer une assez grande quantité pour obtenir quelques gros de cendres en les faisant brûler et pouvoir ainsi opérer sur une certaine masse. Eh bien, en analysant ces cendres, vous trouverez de l'acide silicique, de l'alumine, du phosphate et du carbonate calcique, du carbonate magnésique, du sulfate, du carbonate potassique et de l'oxyde ferrique, comme si le cresson était venu en terre au bord des eaux. Or, ces substances n'existaient ni dans le soufre, corps simple, qui servait de sol à la plante, ni dans l'eau employée à l'arroser et dont la composition est connue. Mais comme elles ne sont pas non plus dans la graine, nous ne pouvons expliquer leur présence dans la plante qu'en supposant un élément commun au corps contenu dans le cresson et à ceux qui lui ont servi de milieu. Ainsi, l'air, l'eau distillée, la fleur de soufre et les substances que donne l'analyse du cresson, c'est-à-dire la potasse, la chaux, la magnésie, l'alumine, etc., auraient un principe commun errant dans l'atmosphère tel que l'a fait le soleil. Et de cette irrécusable expérience, s'écria-t-il, j'ai déduit l'existence de l'absolu. Une substance commune à toutes les créations, modifiée par une force unique, telle est la position net et claire du problème offert par l'absolu et qui m'a semblé cherchable. Là, vous rencontrerez le mystérieux ternaire devant lequel s'est de tout temps agenouillée l'humanité. La matière première, le moyen, le résultat. Vous trouverez ce terrible nombre 3 en toute chose humaine. Il domine les religions, les sciences et les lois. Ici, me dit-il, la guerre et la misère ont arrêté mes travaux. Bien, vous êtes un élève de Lavoisier, vous êtes riche et maître de votre temps, et je puis donc vous faire part de mes conjectures. Voici le but que mes expériences personnelles m'ont fait entrevoir. La matière une doit être un principe commun aux trois gaz et au carbone. Le moyen doit être le principe commun à l'électricité négative et à l'électricité positive. Marchez à la découverte des preuves qui établiront ces deux vérités, et vous aurez la raison suprême de tous les effets de la nature. Oh, monsieur, quand on porte là, dit-il en se frappant le front, le dernier mot de la création en pressentant l'absolu, est-ce vivre que d'être entraîné dans le mouvement de ce ramas d'hommes qui se ruent à heure fixe les uns sur les autres sans savoir ce qu'ils font? Ma vie actuelle est exactement l'inverse d'un songe. Mon corps va, vient, agit, se trouve au milieu du fer, des canons, des hommes, traverse l'Europe au gré d'une puissance à laquelle j'obéis en la méprisant. Mon âme n'a nul conscient de ses actes. Elle reste fixe, plongée dans une idée, engourdie par cette idée, la recherche de l'absolu, de ce principe par lequel des graines absolument semblables mises dans un même milieu donnent l'une des calices blancs et l'autre des calices jaunes. Phénomène applicable au ver à soie, qui nourrit des mêmes feuilles et constitué sans différence apparente, font les uns de la soie jaune et les autres de la soie blanche. Enfin, applicable à l'homme lui-même, qui souvent a légitimement des enfants entièrement dissemblables avec la mère et lui. La déduction logique de ce fait n'implique-t-elle pas d'ailleurs la raison de tous les effets de la nature? Quoi de plus conforme à nos idées sur Dieu que de croire qu'il a tout fait par le moyen le plus simple? L'adoration pythagoricienne pour le un, d'où sortent tous les nombres et qui représentent la matière une. Celle pour le nombre deux, la première agrégation et le type de toutes les autres. Celle pour le nombre trois, qui de tout temps a configuré Dieu, c'est-à-dire la matière, la force et le produit. Ne résumait-elle pas traditionnellement la connaissance confuse de l'absolu? Stahl, Becher, Paracelse, Agrippa, tous les grands chercheurs de causes occultes avaient pour mot d'ordre le trismégiste, qui veut dire le grand ternaire. Et les ignorants, habitués à condamner l'alchimie, cette chimie transcendante, ne savent sans doute pas que nous nous occupons à justifier les recherches passionnées de ces grands hommes. Et l'absolu trouvé, je me serais alors colleté avec le mouvement. Ah, tandis que je me nourris de poudre et commande à des hommes de mourir assez inutilement, mon ancien maître entasse découverte sur découverte. Il vole vers l'absolu. Et moi, je mourrai comme un chien au coin d'une batterie. Quand ce pauvre grand homme eut repris un peu de calme, il me dit avec une sorte de fraternité touchante, « Oh, si je trouvais une expérience à faire, mais je vous la léguerais avant de mourir. » « Ma Pépita, » dit Balthazar en serrant la main de sa femme, des larmes de rage ont coulé sur les joues creuses de cet homme pendant qu'il jetait dans mon âme le feu de ce raisonnement que déjà Lavoisier s'était timidement fait. « Sans oser s'y abandonner. »« Comment ?» s'écria Madame Claës, qui ne put s'empêcher d'interrompre son mari. « Cet homme, en passant une nuit sous notre toit, nous a enlevé tes affections, a détruit par une seule phrase et par un seul mot le bonheur d'une famille. Oh, mon cher Balthazar, cet homme a-t-il fait le signe de la croix? L'as-tu bien examiné? Le tentateur seul peut avoir cet œil jaune d'où sortait le feu de Prométhée. Oui, le démon pouvait seul t'arracher à moi. Depuis ce jour, tu n'as plus été ni père, ni époux, ni chef de famille. Quoi ? Dit Balthazar en se dressant dans la chambre et jetant un regard perçant à sa femme. Tu blâmes ton mari de s'élever au-dessus des autres hommes afin de pouvoir jeter sous tes pieds la pourpre divine de la gloire, comme une minime offrande auprès des trésors de ton cœur. Mais tu sais donc pas ce que j'ai fait depuis 3 ans. T'es pas le géant, ma Pépita, dit-il en s'animant. Son visage parut alors à sa femme plus étincelant sous le feu du génie qu'il ne l'avait été sous le feu de l'amour, et elle pleura en l'écoutant. J'ai combiné le chlore et l'azote. J'ai décomposé plusieurs corps jusqu'ici considérés comme simples, j'ai trouvé de nouveaux métaux. Tiens, dit-il en voyant les pleurs de sa femme, j'ai décomposé les larmes. Oui, les larmes contiennent un peu de phosphate, de chaux, de chlorure de sodium, du mucus et de l'eau. Il continua de parler sans voir l'horrible convulsion qui travaillait la physionomie de Joséphine. Il était monté sur la science qui l'emportait en croupe, elle déployait au bien loin du monde matériel. Cette analyse, ma chère, est une des meilleures preuves du système de l'absolu. Toute vie implique une combustion. Selon le plus ou moins l'activité du foyer, la vie est plus ou moins persistante. Ainsi, la destruction du minéral est indéfiniment retardée parce que la combustion y est virtuelle, latente ou insensible. Ainsi, les végétaux, qui se rafraîchissent incessamment par la combinaison d'où résulte l'humide, vivent indéfiniment. Et il existe plusieurs végétaux contemporains du dernier cataclysme. Mais toutes les fois que la nature a perfectionné un appareil, que dans un but ignoré, il y a jeté le sentiment, l'instinct ou l'intelligence. 3 degrés marqués dans le système organique, ces 3 organismes veulent une combustion dont l'activité est en raison directe du résultat obtenu. L'homme, qui représente le plus haut poids de l'intelligence, et qui nous offre le seul appareil où résulte un pouvoir à demi créateur, la pensée, est, parmi les créations zoologiques, celle où la combustion se rencontre dans son degré le plus intense et dont les puissants effets sont en quelque sorte révélés par les phosphates, les sulfates et les carbonates que fournit son corps dans notre analyse. Ces substances ne seraient-elles pas les traces que laisse en lui l'action du fluide électrique, principe de toute fécondation? L'électricité ne se manifesterait-elle pas en lui par des combinaisons plus variées qu'en tout autre animal? N'aurait-il pas des facultés plus grandes que toute autre créature pour absorber de plus fortes proportions du principe absolu et ne se les assimilerait-il pas pour en composer dans une plus parfaite machine sa force et ses idées? Mais je le crois, l'homme est un matras. Ainsi, selon moi, l'idiot serait celui dont le cerveau contiendrait le moins de phosphore ou tout autre produit de l'électromagnétisme. Le fou, celui dont le cerveau en contiendrait trop. L'homme ordinaire, celui qui en aurait peu. Et l'homme de génie, celui dont la cervelle en serait saturée à un degré convenable. L'homme constamment amoureux, le portefeuille, le danseur, le grand mangeur, sont ceux qui déplaceraient la force résultante de leur appareil électrique. Ainsi nos sentiments... Assez, Balthazar, tu m'épouvantes, tu commets des sacrilèges. Quoi, mon amour serait... Oui, de la matière éthérée qui se dégage, dit Claës, et qui sans doute est le mot de l'absolu. Songe donc que si moi, moi le premier, si je trouve... En disant ces mots sur 3 tons différents, son visage monta par degrés à l'expression de l'inspiré. Mais je fais les métaux, je fais les diamants, je répète la nature, s'écria-t-il. En seras-tu plus heureux? Cria-t-elle avec désespoir. Maudite science, maudit démon. Mais tu oublies, Claës, que tu commets le péché d'orgueil dont tu fus coupable Satan. Tu entreprends sur Dieu. Oh, Dieu! Oh, il le nie! S'écria-t-elle en se tordant les mains. Claës, Dieu dispose d'une puissance que tu n'auras jamais. À cet argument qui semblait annuler sa chère science, il regarda sa femme en tremblant. « Quoi ? » dit-il. « La force unique, le mouvement. Voilà ce que j'ai saisi à travers les livres que tu m'as contrainte à lire. Analyse des fleurs, des fruits, du vin de Malaga. Tu découvriras, certes, leurs principes qui viennent comme ceux de ton cresson dans un milieu qui semblerait étranger. Tu peux, à la rigueur, les trouver dans la nature. Mais en les rassemblant, feras-tu ces fleurs, ces fruits, le vin de Malaga? Auras-tu les incompréhensibles effets du soleil? Auras-tu l'atmosphère de l'Espagne? Décomposer n'est pas créer.
Et si je trouve la force coercitive, je pourrais créer.
Mais rien ne l'arrêtera, cria Pépita d'une voix désespérante. Oh, mon amour, il est tué, je l'ai perdu.
Elle fondit en larmes, et ses yeux, animés par la douleur et par la sainteté des sentiments qu'ils épanchaient, brillèrent plus beaux que jamais à travers ses pleurs.
Oui, reprit-elle en sanglotant, tu es mort à tout. Oh, je le vois, la science est plus puissante en toi que toi-même. Et son vol t'a emporté trop haut pour que tu redescendes jamais à être le compagnon d'une pauvre femme. Quel bonheur puis-je t'offrir encore? Ah, je voudrais, triste consolation, croire que Dieu t'a créé pour manifester ses œuvres et chanter ses louanges, qu'il a renfermé dans ton sein une force irrésistible qui te maîtrise. Mais non, Dieu est bon, il te laisserait au cœur quelques pensées pour une femme qui t'adore et pour des enfants que tu dois protéger. Oui, le démon seul peut t'aider à marcher seul au milieu de ces abîmes sans issue, parmi ces ténèbres où tu n'es pas éclairé par la foi d'en haut, mais par une horrible croyance en tes facultés. Autrement ne serais-tu pas aperçu, mon ami, que tu as dévoré 900 000 francs depuis 3 ans? Oh, rends-moi justice, toi, mon Dieu, sur cette terre, je ne te reproche rien. Si nous étions seuls, je t'apporterais à genoux toutes nos fortunes en te disant « Prends, jette dans ton fourneau, faisant de la fumée, et je rirais de l'avoir voltigé. Si tu étais pauvre, j'irais mendier sans honte pour te procurer le charbon nécessaire à l'entretien de ton fourneau. Enfin, si en m'y précipitant, je te faisais trouver ton exécrable absolu, classe, je m'y précipiterais avec bonheur, puisque tu places ta gloire et tes délices dans ce secret encore introuvé. Mais nos enfants, Clarisse, nos enfants, que deviendront-ils si tu ne devines pas bientôt ce secret de l'enfer? Sais-tu pourquoi venait Pierre Quint? Eh bien, il venait te demander 30 000 francs que tu dois, sans les avoir. Tes propriétés ne sont plus à toi. Je lui ai dit que tu avais ces 30 000 francs, afin de t'épargner l'embarras où t'aurais mis ces questions. Mais pour acquitter cette somme, bien j'ai pensé à vendre notre vieille argenterie.
Elle vit les yeux de son mari près de s'humecter, et se jeta désespérément à ses pieds en levant vers lui des mains suppliantes.
« Mon ami, s'écria-t-elle, cesse un moment tes recherches. Économisons l'argent nécessaire à ce qu'il te faudra pour les reprendre plus tard, si tu ne peux pas renoncer à poursuivre ton œuvre. » Oh, je ne la juge pas. Je soufflerai tes fourneaux si tu le veux, mais ne réduis pas nos enfants à la misère. Tu ne peux plus les aimer. La science a dévoré ton cœur. Ne leur lègue pas une vie malheureuse en échange du bonheur que tu leur devais. Le sentiment maternel a été trop souvent le plus faible dans mon cœur. Oui, oh, j'ai souvent souhaité de ne pas être mère, afin de pouvoir m'unir plus intimement à ton âme, à ta vie. Aussi, pour étouffer mes remords, dois-je plaider auprès de toi à la cause de tes enfants, avant la mienne.
Ses cheveux s'étaient déroulés et flottaient sur ses épaules. Ses yeux dardaient 1000 sentiments comme autant de flèches. Elle triompha de sa rivale. Balthazar l'enleva, la porta sur le canapé, se mit à ses pieds.
« Alors je t'ai donc causé des chagrins ?»
lui dit-il avec l'accent d'un homme qui se réveillerait d'un songe pénible.
« Pauvre Clarisse, mais tu nous en donneras encore malgré toi, » dit-elle en lui passant sa main dans les cheveux. « Allons,
« Viens t'asseoir près de moi, » dit-elle en lui montrant sa place sur le canapé.
« Tiens, j'ai tout oublié, puisque tu nous reviens. Va, mon ami, nous réparerons tout, mais tu ne t'éloigneras plus de ta femme, n'est-ce pas ? Dis oui. Laisse-moi, mon grand et beau Claës, exercer sur ton noble cœur cette influence féminine, si nécessaire au bonheur des artistes malheureux, des grands hommes souffrants. Tu me brusqueras, tu me briseras si tu veux, mais tu me permettras de te contrarier un peu pour ton bien. Je n'abuserai jamais du pouvoir que tu me concéderas. Sois célèbre, mais sois heureux aussi. Ne nous préfère pas la chimie. Écoute, nous serons bien complaisants. Nous permettrons à la science d'entrer avec nous dans le partage de ton cœur. Mais sois juste, donne-nous bien notre moitié. Dis, mon désintéressement n'est-il pas sublime ?
Elle fit sourire Balthazar. Avec cet art merveilleux que possèdent les femmes, elle avait amené la plus haute question dans le domaine de la plaisanterie où les femmes sont maîtresses. Cependant, quoiqu'elle pût parut rire, son cœur était si violemment contracté qu'il reprenait difficilement le mouvement égal et doux de son état habituel. Mais en voyant renaître dans les yeux de Balthazar l'expression qui la charmait, qui était sa gloire à elle, et lui révélait l'entière action de son ancienne puissance, ce qu'elle croyait perdue, elle lui dit en souriant,
« Crois-moi, Balthazar, la nature nous a fait pour sentir, et quoi que tu veuilles que nous ne soyons que des machines électriques, tes gaz, tes matières éthérées, n'expliqueront jamais le don que nous possédons d'entrevoir l'avenir. »«
Si, reprit-il, par les affinités, la puissance de vision que fait le poète et la puissance de déduction qui fait le savant, sont fondées sur des affinités invisibles, intangibles et impondérables, que le vulgaire range dans la classe des phénomènes moraux, mais qui sont des effets physiques. Le prophète voit et déduit. Malheureusement, ces espèces d'affinités sont trop rares et trop peu perceptibles pour être soumises à l'analyse ou à l'observation.
Et ceci, dit-elle en lui prenant un baiser, pour éloigner la chimie qu'elle avait si malencontreusement réveillée. Ceci serait donc une affinité ?
Non, non, c'est une combinaison. Deux substances de même signe ne produisent aucune activité.
Allons, tais-toi, dit-elle, tu me ferais mourir de douleur. Oh, oui, je ne supporterais pas, cher, de voir ma rivale jusque dans les transports de ton amour.
Mais ma chère vie, je ne pense qu'à toi. Mes travaux sont la gloire de ma famille. Tu es au fond de toutes mes espérances.
Mais voyons, regarde-moi.
Cette scène l'avait rendue belle comme une jeune femme, et de toute sa personne, son mari ne voyait que sa tête au-dessus d'un nuage de mousseline et de dentelle.
Oui, oui, j'ai eu bien tort de te délaisser pour la science. Eh bien maintenant, quand je retomberai dans mes préoccupations, eh bien ma Pépita, tu m'y arracheras, je le veux.
Elle baissa les yeux et laissa prendre sa main, sa plus grande beauté, une main à la fois puissante et délicate.
Mais je veux plus encore, dit-elle.
Ah, tu es si délicieusement belle que tu peux tout obtenir.
Mais je veux briser ton laboratoire et enchaîner ta science, dit-elle en jetant du feu par les yeux.
Eh bien, au diable la chimie !
Ah, ce moment efface toutes mes douleurs, reprit-elle. Maintenant, fais-moi sourire si tu veux.
En entendant ce mot, les larmes gagnèrent Balthazar.
Oui, mais tu as raison, je ne vous voyais qu'à travers un voile, je ne vous entendais plus.
S'il ne s'était agi que de moi, dit-elle, j'aurais continué à souffrir en silence, sans élever la voix devant mon souverain. Mais tes fils ont besoin de considération, Claes. Je t'assure que si tu continuais à dissiper ainsi ta fortune, quand même ton but serait glorieux, le monde ne t'en tiendrait aucun compte et son blâme retomberait sur les tiens. Ne doit-il pas te suffire à toi, homme de si haute portée, que ta femme ait attiré ton attention sur un danger que tu n'apercevais pas ? Allez, ne parlons plus de tout cela, dit-elle, en lui lançant un sourire et un regard plein de coquetterie. Ce soir, mon Claes, ne soyons pas heureux à demi. Le lendemain de cette soirée si grave dans la vie de ce ménage, Balthazar Claes, de qui Joséphine avait sans doute obtenu quelques promesses relativement à la cessation de ses travaux, ne monta point son laboratoire et resta près d'elle durant toute la journée. Le lendemain, la famille fit ses préparatifs pour aller à la campagne, où elle demeura 2 mois environ et d'où elle ne revint en ville que pour s'y occuper de la fête par laquelle Claes voulait, comme jadis, célébrer l'anniversaire de son mariage. Balthazar obtint alors, de jour en jour, les preuves du dérangement que ses travaux et son insouciance avaient apporté dans ses affaires. Loin d'élargir la plaie par des observations, sa femme trouvait toujours des palliatifs aux maux consommés. Des scènes domestiques avec Claes, le jour où il reçut pour la dernière fois, il ne restait plus que le mulquinier, Josette la cuisinière et une vieille femme de chambre nommée Martha qui n'avait pas quitté sa maîtresse depuis sa sortie du couvent. Il était donc impossible de recevoir la haute société de la ville avec un si petit nombre de serviteurs. Madame Claes leva toutes les difficultés en proposant de faire venir un cuisinier de Paris, de dresser au service le fils de leur jardinier et d'emprunter le domestique de Perquin. Ainsi, personne ne s'apercevrait encore de leur état de gêne. Pendant 20 jours que durèrent les apprêts, Madame Claes sut tromper avec habileté le désœuvrement de son mari. Tantôt elle le chargeait de choisir les fleurs rares qui devaient orner le grand escalier, la galerie et les appartements. Tantôt elle l'envoyait à Dunkerque pour s'y procurer quelques-uns de ces monstrueux poissons, la gloire des tables ménagères dans le département du Nord. Une fête comme celle que donnait Claes était une affaire capitale qui exigeait une multitude de soins et une correspondance active dans un pays où les traditions de l'hospitalité mettent si bien en jeu l'honneur des familles que, pour les maîtres, les gens, un dîner est comme une victoire à remporter sur les convives. Les huîtres arrivaient d'Ostende, les coques de Bruyère étaient demandées à l'Écosse, les fruits venaient de Paris. Enfin, les moindres accessoires ne devaient pas démentir le luxe patrimonial. D'ailleurs, le bal de la maison Claes avait une sorte de célébrité. Le chef-lieu du département étant alors à Douai, cette soirée ouvrait en quelque sorte la saison d'hiver et donnait le ton à toutes celles du pays. Aussi, pendant 15 ans, Balthazar s'était-il efforcé de se distinguer et avait si bien réussi qu'il s'en faisait chaque fois des récits à 20 lieues à la ronde, et qu'on parlait des toilettes, des invités, des plus petits détails, des nouveautés qu'on y avait vues ou des événements qui s'y étaient passés. Ces préparatifs empêchèrent donc Claes de songer à la recherche de l'absolu. En revenant aux idées domestiques et à la vie sociale, le savant retrouva son amour-propre d'homme, de flamand, de maître de maison. Il se plut à étonner la contrée. Il voulut imprimer un caractère à cette soirée par quelques recherches nouvelles, et il choisit, parmi toutes les fantaisies du luxe, la plus jolie, la plus riche, la plus passagère, en faisant de sa maison un bocage de plantes rares et préparant des bouquets de fleurs pour les femmes. Les autres détails de la fête répondaient à ce luxe inouï. Rien ne paraissait devoir en faire manquer l'effet. Mais le 29e bulletin et les nouvelles particulières des désastres éprouvés par la Grande Armée en Russie à la Bérézina s'étaient répandus dans l'après-midi. Une tristesse profonde et vraie s'empara des douaisiens qui, par un sentiment patriotique, refusèrent unanimement de danser. Parmi les lettres qui arrivèrent de Pologne à Douai, il y en eut une pour Balthazar. Monsieur de Virchovnia, alors à Dresde, où il se mourait, disait-il d'une blessure reçue dans un des derniers engagements, avait voulu léguer à son hôte plusieurs idées qui, depuis leur rencontre, lui étaient survenues relativement dans l'absolu. Cette lettre plongea Claës dans une profonde rêverie qui fit honneur à son patriotisme. Mais sa femme ne s'y méprit pas. Pour elle, la fête eut un double deuil. Cette soirée, pendant laquelle la maison Claës jetait son dernier éclat, eut donc quelque chose de sombre et de triste au milieu de tant de magnificence, de curiosités amassées par 6 générations dont chacune avait eu sa manie et que les douaisiens admirèrent pour la dernière fois. La reine de ce jour fut Marguerite, alors âgée de 16 ans, et que ses parents présentèrent au monde. Elle attira tous les regards par une extrême simplicité, par son air candide et surtout par sa physionomie en accord avec ce logis. C'était bien la jeune fille flamande telle que les peintres du pays l'ont représentée. Une tête parfaitement ronde et pleine, des cheveux châtains lissés sur le front et séparés en deux bandeaux, des yeux gris mélangés de vert, de beaux bras, un embonpoint qui ne nuisait pas à la beauté, un air timide, mais sur son front haut et plat, une fermeté qui se cachait sous un calme et une douceur apparente. Sans être ni triste ni mélancolique, elle parut avoir peu d'enjouement. La réflexion, l'ordre, le sentiment du devoir, les trois principales expressions du caractère flamand, animaient sa figure froide au premier aspect, mais sur laquelle le regard était ramené par une certaine grâce dans les contours, et par une paisible fierté qui donnait des gages au bonheur domestique. Par une bizarrerie que les physiologistes n'ont pas encore expliquée, elle n'avait aucun trait de sa mère ni de son père et offrait une vivante image de son aïeule maternelle, une Coninx de Bruges, dont le portrait conservé précieusement attestait cette ressemblance. Le souper donna quelque vie à la fête. Si les désastres de l'armée interdisaient les réjouissances de la danse, chacun pensa qu'il ne devait pas exclure les plaisirs de la table. Les patriotes se retirèrent promptement. Les indifférents restèrent avec quelques joueurs et plusieurs amis de Claës. Mais insensiblement, cette maison si brillamment éclairée où se pressaient toutes les notabilités de Douai rentra dans le silence, et vers 1 heure du matin, la galerie fut déserte, les lumières s'éteignirent de salon en salon. Enfin, cette cour intérieure, un moment si bruyante, si lumineuse, redevint noire et sombre, image prophétique de l'avenir qui attendait la famille. Quand les Claës rentrèrent dans leur appartement, Balthazar fit lire à sa femme la lettre du Polonais et elle la lui rendit par un geste triste, elle prévoyait l'avenir. En effet, à compter de ce jour, Balthazar déguisa mal le chagrin et l'ennui qui l'accabla. Le matin, après le déjeuner de famille, il jouait un moment dans le parloir avec son fils Jean, causait avec ses deux filles, occupées à coudre, à broder ou à faire de la dentelle. Mais il se lassait bientôt de ses jeux, de cette causerie. Il paraissait s'en acquitter comme d'un devoir. Lorsque sa femme redescendait après s'être habillée, elle le trouvait toujours assis dans la bergère, regardant Marguerite et Félicie, sans s'impatienter du bruit de leurs bobines. Quand venait le journal, ils le lisaient lentement, comme un marchand retiré qui ne sait comment tuer le temps. Puis il se levait, contemplait le ciel à travers les vitres, revenait s'asseoir et attisait le feu rêveusement, en homme à qui la tyrannie des idées ôtait la conscience de ses mouvements. Madame Claes regretta vivement son défaut d'instruction et de mémoire. Il était difficile de soutenir longtemps une conversation intéressante. D'ailleurs, peut-être assez impossible entre deux êtres qui se sont tout dit et qui sont forcés d'aller chercher des sujets de distraction en dehors de la vie du cœur ou de la vie matérielle. La vie du cœur a ses moments et veut des oppositions. Les détails de la vie matérielle ne sauraient occuper longtemps des esprits supérieurs habitués à se décider promptement. Et le monde est insupportable aux âmes aimantes. Deux êtres solitaires qui se connaissent entièrement doivent donc chercher leur divertissement dans les régions les plus hautes de la pensée, car il est impossible d'opposer quelque chose de petit à ce qui est immense. Puis, quand un homme s'est accoutumé à manier de grandes choses, il devient inamusable s'il ne conserve pas au fond du cœur ce principe de candeur, se laisser aller, qui rend les gens de génie si gracieusement enfants. Mais cette enfance du cœur n'est-elle pas un phénomène humain bien rare chez ceux dont la mission est de tout voir, de tout savoir et de tout comprendre? Pendant les premiers mois, Madame Claes se tira de cette situation critique par des efforts inouïs que lui suggéra l'amour, la nécessité. Tantôt, elle voulut apprendre le tric-trac qu'elle n'avait jamais pu jouer. Et par un prodige assez concevable, elle finit par le savoir. Tantôt, elle intéressait Balthazar à l'éducation de ses filles, en lui demandant de diriger leur lecture. Mais ses ressources s'épuisèrent. Il vint un moment où Joséphine se trouva devant Balthazar comme Madame de Maintenon en présence de Louis XIV. Mais sans avoir, pour distraire le maître assoupi, ni les pompes du pouvoir, ni les ruses d'une cour qui savait jouer des comédies comme celle de l'ambassade du roi de Siam ou du Sophie de Perse. Réduit, après avoir dépensé la France à des expédients de fils de famille pour se procurer de l'argent, le monarque n'avait plus ni jeunesse ni succès et sentait une effroyable impuissance au milieu des grandeurs. La royale bonne, qui avait su bercer les enfants, ne sut pas toujours bercer le père, qui souffrait pour avoir abusé des choses, des hommes, de la vie et de Dieu. Mais Claes souffrait de trop de puissance. Oppressé par une pensée qui l'étreignait, il rêvait les pompes de la science, des trésors pour l'humanité et pour lui, la gloire. Il souffrait comme souffre un artiste aux prises avec la misère, comme Samson attaché aux colonnes du temple. L'effet était le même pour ces deux souverains, quoique le monarque intellectuel fut accablé par sa force et l'autre par sa faiblesse. Que pouvait Pépita seule contre cette espèce de nostalgie scientifique? Après avoir usé les moyens que lui offraient les occupations de famille, elle appela le monde à son secours en donnant deux cafés par semaine. À Douai, les cafés remplacent les thés. Un café est une assemblée où, pendant une soirée entière, les invités boivent les vins exquis et les liqueurs dont regorgent les caves dans ce benoît pays, mangent des friandises, prennent du café noir ou du café au lait frappé de glace. Et tandis que les femmes chantent des romances, discutent leurs toilettes ou se racontent les gros riens de la ville. C'est toujours les tableaux de Mieris ou de Terbourg, moins les plumes rouges sur les chapeaux gris pointus, moins les guitares et les beaux costumes du XVIe siècle. Mais les efforts que faisait Balthazar pour bien jouer son rôle de maître de maison, son affabilité d'emprunt, les feux d'artifice de son esprit, tout accusait la profondeur du mal par la fatigue à laquelle on le voyait en proie le lendemain. Ces fêtes continuelles, faibles palliatifs, attestèrent la gravité de la maladie. Ces branches que rencontrait Balthazar en roulant dans son précipice retardèrent sa chute mais la rendirent plus lourde. S'il ne parla jamais de ses anciennes occupations, s'il n'émit pas un regret en sentant l'impossibilité dans laquelle il s'était mis de recommencer ses expériences, il eut les mouvements tristes, la voix faible, l'abattement d'un convalescent. Son ennui perçait parfois jusque dans la manière dont il prenait les pinces pour bâtir insouciamment dans le feu quelques fantasques pyramides avec des morceaux de charbon de terre. Quand il avait atteint la soirée, il éprouvait un contentement visible. Le sommeil le débarrassait sans doute d'une importune pensée. Puis, le lendemain, il se levait mélancolique, en apercevant une journée à traverser et semblait mesurer le temps qu'il avait à consumer comme un voyageur lassé contemple un désert à franchir. Si Madame Claës connaissait la cause de cette langueur, elle s'efforça d'ignorer combien les ravages en étaient étendus. Pleine de courage contre les souffrances de l'esprit, elle était sans force contre les générosités du cœur. Elle n'osait questionner Balthazar quand il écoutait les propos de ses deux filles et les rires de Jean, avec l'air d'un homme occupé par une arrière-pensée. Mais elle frémissait en lui voyant secouer sa mélancolie et tâcher, par un sentiment généreux, de paraître gai pour n'attrister personne. Les coquetteries du père avec ses deux filles ou ses jeux avec Jean mouillaient de pleurs les yeux de Joséphine, qui sortait pour cacher ses émotions que lui causait un héroïsme dont le prix est bien connu des femmes et qui leur brise le cœur. Madame Claës avait alors envie de dire « Mais tue-moi et fais ce que tu voudras !» Insensiblement, les yeux de Balthazar perdirent leur feu vif et prirent cette teinte glauque qui attriste ceux des vieillards. Ses attentions pour sa femme, ses paroles, tout en lui fut frappé de lourdeur. Ces symptômes, devenus plus graves vers la fin du mois d'avril, effrayèrent Madame Claës, pour qui ce spectacle était intolérable et qui s'était déjà fait 1000 reproches en admirant la foi flamande avec laquelle son mari tenait sa parole. Un jour que Balthazar lui sembla plus affaissé qu'il ne l'avait jamais été, elle n'hésita plus à tout sacrifier pour le rendre à la vie. « Mon ami, lui dit-elle, allez, je te défie, lis de tes serments. » Balthazar la regarda d'un air étonné. « Mais tu penses à tes expériences, » reprit-elle. Il répondit par un geste d'une effrayante vivacité. Loin de lui adresser quelques remontrances, Madame Claës, qui avait à loisir sondé l'abîme dans lequel ils allaient rouler tous deux, lui prit la main et la lui serra en souriant. « Merci, ami. Oh, je suis sûre de mon pouvoir, lui dit-elle. Tu m'as sacrifié plus que ta vie. Eh bien, moi maintenant, les sacrifices. Quoique j'aie déjà vendu quelques-uns de mes diamants, il en reste encore assez, en y joignant ceux de mon frère pour te procurer l'argent nécessaire à tes travaux. Je destinais ces parures à nos deux filles, mais ta gloire ne leur en fera-t-elle pas de plus étincelante? D'ailleurs, ne leur rendras-tu pas un jour leur diamant plus beau? » La joie, qui soudainement éclaira le visage de son mari, mit le comble au désespoir de Joséphine. Elle vit avec douleur que la passion de cet homme était plus forte que lui. Claës avait confiance en son œuvre pour marcher sans trembler dans une voie qui pour sa femme était un abîme. À lui la foi, à elle le doute, à elle le fardeau le plus lourd. La femme ne souffre-t-elle pas toujours pour deux? En ce moment, elle se mit à croire au succès, voulant se justifier elle-même sa complicité dans la dilapidation probable de leur fortune. « Oh, l'amour de toute ma vie ne suffirait pas à reconnaître ton dévouement, Pepita !» dit Claës attendri. À peine achevait-il ces paroles que Marguerite et Félicie entrèrent et leur souhaitèrent le bonjour. Madame Claës baissa les yeux et resta pendant un moment interdite devant ses enfants dont la fortune venait d'être aliénée au profit d'une chimère. Tandis que son mari les prit sur ses genoux et causa gaiement avec eux, heureux de pouvoir déverser la joie qui l'oppressait. Madame Claës entra alors dans la vie ardente de son mari. L'avenir de ses enfants, la considération de leur père, furent pour elle deux mobiles aussi puissants que l'étaient pour Claës la gloire et la science. Aussi cette malheureuse femme n'eut-elle plus une heure de calme quand tous les diamants de la maison furent vendus à Paris par l'entremise de l'abbé de Solis, son directeur, et que les fabricants de produits chimiques eurent recommencé leurs envois. Sans cesse agitée par le démon de la science et par cette fureur de recherche qui dévorait son mari, elle vivait dans une attente continuelle et demeurait comme morte pendant des journées entières, clouée dans sa bergère par la violence même de ses désirs, qui ne trouvant point, comme ceux de Balthazar, une pâture dans les travaux du laboratoire, tourmentèrent son âme en agissant sur ses doutes et sur ses craintes. Par moments, se reprochant sa complaisance pour une passion dont le but était impossible et que M. de Solis condamnait, elle se levait, allait à la fenêtre de la cour intérieure et regardait avec terreur la cheminée du laboratoire. S'il s'en échappait de la fumée, elle la contemplait avec désespoir. Les idées les plus contraires agitaient son cœur et son esprit. Elle voyait s'enfuir en fumée la fortune de ses enfants. Mais elle sauvait la vie de leur père. N'était-ce pas son premier devoir de le rendre heureux? Cette dernière pensée la calmait pour un moment. Elle avait obtenu de pouvoir entrer dans le laboratoire et d'y rester, mais il lui fallut bientôt renoncer à cette triste satisfaction. Elle éprouvait là de trop vives souffrances, à voir Balthazar ne point s'occuper d'elle et même paraître souvent gênée par sa présence. Elle y subissait de jalouses impatiences, de cruelles envies de faire sauter la maison. Elle y mourait de mille maux inouïs. Le mulquinier devint alors pour elle une espèce de baromètre. L'entendait-elle siffler quand il allait et venait pour servir le déjeuner ou le dîner? Elle devinait que les expériences de son mari étaient heureuses et qu'il concevait l'espoir d'une prochaine réussite. Le mulquinier était-il morne, sombre? Elle lui jetait un regard de douleur. Balthazar était mécontent. La maîtresse et le valet avaient fini par se comprendre, malgré la fierté de l'une et la soumission rogue de l'autre. Faible et sans défense contre les terribles prostrations de la pensée, cette femme succombait sous ces alternatives d'espoir et de désespérance qui, pour elle, s'alourdissaient des inquiétudes de la femme aimante et des anxiétés de la mère tremblant pour sa famille. Le silence désolant qui jadis lui refroidissait le cœur, elle le partageait sans s'apercevoir de l'air sombre qui régnait au logis et des journées entières qui s'écoulaient dans ce pouvoir noir, sans un sourire, souvent sans une parole. Par une triste prévision maternelle, elle accoutumait ses deux filles aux travaux de la maison et tâchait de les rendre assez habiles à quelque métier de femme pour qu'elles puissent en vivre si elles tombaient dans la misère. Le calme de cet intérieur couvrait donc d'effroyables agitations. Vers la fin de l'été, Balthazar avait dévoré l'argent des diamants vendus à Paris par l'entremise du vieil abbé de Solis, et s'était endetté d'une 20aine de 1000 francs chez les prothèses et Chiffreville.